Les lumières du festival jour 8, My Blueberry Nights, Les Anges Déchus, The Grandmaster, Le Corbeau, Le Salaire de la Peur et La Vérité.
Thank you. bien en dessous de ce qu'ils ont comme valeur dans ce film, mais on voit passer ces métros. Et puis, chose nouvelle un petit peu chez Wong Kar-wai, donc, on voit défiler le paysage américain au rythme d'une voiture. Et c'est là qu'on voit aussi tout ce qu'il peut exploiter de cette nouvelle matière cinématographique qui s'offre à lui. Et il le fait sur quelques plans vraiment très très jubilatoires et magnifiques, où on se retrouve d'un coup avec les couleurs des intérieurs de Wong Kar-wai plaquées sur ces paysages qu'on connaît bien, mais qu'on voit ici comme on les avait presque jamais vus, avec la photo de Darius Kandji qui fait vraiment un travail assez remarquable là-dessus.
Oui, et sur ces paysages assez fous, là, qu'on découvre aussi, une bande son assez incroyable, comme toujours. Alors là, moi je pensais que c'était Norah Jones au début qu'on entend chanter, en fait c'est Cat Power, on a vu ça ensuite au générique.
Puisqu'on a oublié de dire que le personnage de Lizzie, le personnage principal, est joué par Norah Jones.
Oui, une bande son qui trouve écho dans ce paysage, visage du grandiose et de l'intime, et dans cette vague aussi.
Bon, vous l'aurez compris, chers auditeurs, on a aimé My Blueberry Nights avec le petit jeu de mots sur les blueberries que je vous laisse le soin de découvrir, parce qu'il y a aussi un certain nombre de petits éléments. On reconnaît la place de la nourriture dans le cinéma de Wong Kar-wai pour ceux qui ont vu The Mood for Love, mais là aussi on se retrouve avec des petits détails, entre autres culinaires, donne vraiment tout ce charme mélancolique à ce film et en font un film considéré comme n'étant pas un des films majeurs de sa filmographie, mais qui est quand même un petit bijou d'émotion et de beauté plastique aussi. À voir donc, chers auditeurs. Dans le micro, Marie, pour te confier la lourde tâche de résumer brièvement ce qui peut bien s'y passer.
Alors, merci Rémi. Pour cette tâche, en effet, pas vraiment facile, surtout quand on en sort à l'instant. Donc, Les Anges Déchus, on pourrait dire, pour reprendre les mots du petit carnet du festival, qui s'est aussi éclaté, puisqu'on voit les dessins croisés, enfin les dessins, c'est pas vraiment les dessins, en tout cas les figures de plusieurs personnages, donc un tueur professionnel, son associé, une sorte de personnage arnaqueur, muet, assez étonnant, une jeune fille qui n'arrive pas à oublier son précédent amoureux. Je ne sais pas si j'oublie un des personnages, enfin il y en a d'autres qui se croisent, mais on voit un peu ces personnages dans la ville, et je pense que la ville d'ailleurs peut être aussi peut-être un personnage supplémentaire. Donc voilà, tout ça se bouscule assez brusquement, assez violemment même. Et c'est vrai qu'on a vu plusieurs films de Wong Kar-wai cette semaine, et là, pour le coup, la violence et le bousculement, ils sont vraiment même au cœur même de l'image, et c'est assez surprenant par rapport à ce qu'on a vu avant.
Oui, en ce qui concerne, ça se bouscule surtout dans ma tête pour l'instant, parce que c'est vrai que là, c'est un film qui est vraiment extrêmement brut, et les images arrivent comme ça, il y a très très serré, pas forcément pas forcément extrêmement virtuose, parce que Wong Kar-wai est coutumier d'un montage très très économe, mais pareil avec quelque chose, oui, vraiment de très brut. D'ailleurs il y a des utilisations d'images de caméscope, de caméras de vidéosurveillance, et c'est pas du tout aussi apaisé et mélancolique que peuvent l'être ses films les plus connus. Là, au contraire, il y a quelque chose de complètement électrique. Mais alors, peut-être pour avoir une parole un petit peu plus posée, je me tourne vers toi, Sarah, puisque tu l'as vu un petit peu plus tôt. Et tu as peut-être eu le temps de réfléchir un petit peu plus dessus que nous.
Eh bien, je l'ai vu un peu plus tôt, effectivement. Et c'était la deuxième fois, d'ailleurs, que je le voyais. Le seul film de Wong Kar-wai que j'ai vu. Et j'ai encore été frappée par la confusion qu'il y a dans le film. On le voit avec les mouvements de caméra, notamment, et certains plans qui sont pris soit en contre-plongée, soit en plongée. Notamment certaines scènes qui sont un peu étranges. En fait, on voit la partenaire plutôt qui est en voit sur son lit, et puis tout d'un coup, ça se renverse, on bascule dans le noir et on arrive à une autre scène. Et ça ajoute, je trouve, à la confusion et la vitesse des transports, le métro, le train, les néons aussi qui s'allument tout le temps. On voit finalement Tokyo pratiquement que de nuit, avec une pluie assez dense qui tombe. Donc, je suis d'accord avec l'idée de confusion.
Oui, et puis... Et puis on a peut-être oublié de le dire, le film se passe exclusivement de nuit, et c'est la ville, mais c'est la ville la nuit, et ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire qu'il y a énormément de transitions qui se font par le noir, et ça rajoute à ce côté complètement confus, parce que en fait, toutes ces transitions par le noir font office d'une espèce de non-montage qui nous mène d'un plan à l'autre, et ça donne quelque chose de visuellement très très beau et de complètement déroutant.
Il y a un plan stable, fixe, on le remarque, il sort du lot tout de suite parce qu'il n'y en a vraiment aucun. Tu parlais de diagonale au début, j'ai l'impression, mais au début, on se dit qu'il n'y aura jamais un plan horizontal, ce sera en diagonale, ou même on a une tension de caméra à l'épaule pendant presque tout le film. Et oui, donc je partage tout à fait ça. Mais pour revenir peut-être un peu au personnage et au titre, enfin, je trouve le titre très beau, Les anges déchus, et je trouve que c'est vraiment. Là, c'est vraiment ce qui se passe en fait. Enfin, on a l'impression de voir ces personnages par rapport aux autres personnages qu'on a pu voir dans d'autres films, ou même enfin, qui sont un peu. Qui supplissent un peu cette ville dans laquelle ils vivent, cette époque, cette confusion aussi, ce rythme. Ils ont du mal à être amoureux, ils ont du mal à être seuls, ils sont un peu livrés à eux-mêmes dans cet univers de néon, comme tu disais, Sarah, de lumière hyper vive, de pub. Il y a plein de marques, on voit même des marques occidentales, des. Enfin, on a l'impression d'être complètement là dans les années. Enfin, c'est en 95, du coup, on a vérifié, mais c'est vraiment. On est plutôt dans cette lumière années 60, un peu rêveur, poétique. Là, c'est vraiment la violence d'une époque. Enfin, c'est ça qui m'a quand même marqué. Je ne sais pas si c'est ton cas aussi, Sarah.
Oui, la violence d'une époque, oui, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, pour moi, le titre, ça pourrait tout aussi bien être Les anges déchus, puisque finalement, chacun a un destin plus ou moins violent, comme on l'a souligné. Et. Pourtant, ce qui en fait quand même des anges, je trouve, c'est que certains ne perdent pas espoir malgré toutes leurs déceptions. Et je pense par exemple au muet qui a été plusieurs fois dans la déroute. Il perd son premier amour, il perd son père, et pourtant il continue sa vie. Et pareil, la partenaire qui continue aussi sa vie. Et je trouvais que c'était très très beau cette idée-là. Ce sont des personnages ni bons ni mauvais, et voilà, ils se battent quand même.
Et ça, c'est ça que je trouve assez fascinant et qui relie cette œuvre à tous les autres films de Wong Kar-wai. En fait, c'est vraiment le traitement des personnages, et je trouve, contrairement un peu à ce que tu disais, Marie, c'est que justement on se retrouve avec des personnages qui sont caractérisés par une chose qui caractérise un peu tous les personnages de Wong Kar-wai, c'est leur incapacité à s'ancrer dans le présent, leur incapacité à vivre au rythme du temps, et on a ici des personnages qui sont, oui, un petit peu portés par l'action, mais on a l'impression qu'ils sont ballottés d'une certaine façon, comme nous on est ballottés dans les images, et on a ces personnages, mais là aussi je dirais pas forcément qu'ils se battent en fait, mais qu'ils existent, qu'ils sont là et qu'ils sont un petit peu jetés dans ce monde de nuit, d'images, de couleurs, de flou, dans ce monde complètement mouvant, et qu'ils y existent un petit peu comme ils peuvent, et c'est ça qui fait aussi toute la mélancolie du film, qu'on arrive quand même à voir émerger après coup, une fois que les images se calment, mélancolie qui passe aussi un petit peu par la musique, comme Wong Kar-wai et les bandes son, c'est toujours quelque chose d'assez extraordinaire. Et là, dans la pop asiatique, on traverse tout un éventail de chansons.
On a même une esthétique près du clip, souvent, enfin là, je trouve qu'on a même des passages très très longs de musique, elle est sur l'image, et de clip, mais c'est pas du tout une belle expression, et c'est pas vraiment ça, mais on est plongé dans cette musique qui est aussi l'image.
Une musique qui a un sens d'ailleurs, je trouve, puisque le personnage du tueur à gages est souvent associé à une musique un peu violente, avec pas mal de percussions, j'ai l'impression, lorsqu'il monte les escalators, surtout, et il est associé aussi à la musique tout à fait nostalgique, je veux oublier, on ne connaît pas les paroles en langue originale, mais ce qui fait que chaque musique en fait a son sens, et ça rend les scènes encore plus fortes.
Oui, alors ça, des scènes fortes, je pense qu'on peut peut-être terminer là-dessus en disant que c'est quand même ce qui traverse vraiment tout le film, et la première impression qu'on a, c'est que que, comme on nous l'a dit au début de la projection, ces films ressortiront en salle d'ici quelques jours. Ça peut être l'occasion pour vous, chers auditeurs, d'aller les voir, d'aller voir ces films les plus méconnus de Wong Kar-wai, parce que ce film est quand même pas resté le plus connu dans sa filmographie. Il a assez vite été éclipsé par les quelques-uns qui ont suivi. Malgré tout, ça vaut le détour parce que c'est une facette assez peu connue, mais indispensable de son cinéma. Puis je termine avec cette grande découverte que j'ai faite pendant ce film quand même. Il existe des êtres humains capables de prendre des photos de l'écran pendant un film avec leur téléphone portable. J'étais fasciné.
The Grandmaster, c'est mon premier Wong Kar-wai. C'est la première fois que j'allais voir au cinéma un film du mec qui reçoit quand même le prix Lumière 2017. C'est un film de 2013 qui dure 2 heures, qui raconte pendant toute cette durée un peu ample, qui rend hommage, plus que ça ne raconte, qui rend hommage aux arts martiaux en général et au kung-fu en particulier, parce que le récit couvre une période qui va des années 30 aux années 50 et rend hommage un peu aux grands maîtres de cette période qui était certes très perturbée politiquement pour la Chine, puisque c'est une période à la fois de guerre civile, d'invasion japonaise, etc. Et aussi une période extrêmement florissante du point de vue des arts martiaux. Donc le récit est centré autour du personnage de Ip Man, qui a réellement existé. Le film est une adaptation de son autobiographie et raconte comment cet homme a pratiqué longuement le kung-fu depuis ses 7 ans s'est trouvé un peu investi par un maître, qui est The Grandmaster, qui donne son nom au film aussi, et les gens qui gravitent un petit peu autour de lui. Alors c'est un film dans lequel donc, on croise la fille du grand maître, Gang Er, qui est très attachée aux problématiques de l'honneur, qui doit venger son père parce que son père a été tué par un de ses disciples, qui certes était très bon, mais qui est aussi un gros connard qui a pactisé avec les Japonais. Donc le récit de cette vengeance, comme ça, il y a un code de l'honneur très très développé. Il y a aussi un autre grand maître qu'on croise, là, comme ça, qui est surnommé The Razor, en anglais, la lame. Et c'est un film qui m'a plu, sans plus, je dirais, au sens où l'histoire est un petit peu confuse, c'est un petit peu difficile de suivre tous ces maîtres, en particulier celui qui est surnommé la lame. Enfin, on le voit 2 fois dans le film, il est pas mal développé, mais en fait, il interagit pas énormément avec les autres personnages, c'est-à-dire qu'il rencontre Gong Er par hasard dans un train à un moment du film, et après, il n'y a plus aucun rapport entre eux, donc on sait pas pourquoi il apparaît comme ça, et puis après, il disparaît. C'est un petit peu compliqué à suivre, il y a des flashbacks, bon, ça rend la lisibilité de l'ensemble un petit peu compliquée. Et puis, du coup, c'est un peu compliqué de suivre les personnages, et du coup, de s'attacher à eux. Je pense que c'est un film qui vaut pas forcément énormément pour son histoire, parce que c'est un hommage au kung-fu, alors certes très appuyé, mais qui a quand même un côté un peu premier degré. Non, c'est plutôt un film qui vaut pour son esthétique qui est extrêmement léché. Ouais, léché, c'est le mot. On a des plans extraordinaires avec des combats chorégraphiés extraordinaires. C'est un festival pour les yeux, plein de séquences au ralenti, des plans sur la fumée, l'encens, la poussière, la pluie ruisselante, des combats sous la pluie et tout. Donc, c'est super beau, mais voilà, ça m'a laissé un tout petit peu froide, en fait, parce que on voit que c'est un bel objet, mais du coup, qui peine à devenir touchant, en fait, à intéresser directement et parler directement au spectateur ou à la spectatrice. Et c'est peut-être ça qui est un petit peu dommage, en fait. C'est vraiment un film qui vaut pour ce que visuellement Wong Kar-wai a voulu en faire, et c'est très réussi. Mais du coup, voilà, ça reste peut-être un bel objet un petit peu froid qu'on regarde de loin, malheureusement.
Ce film extrêmement connu, mais ça fait jamais Comme un mécanisme qui avance cliquetis après cliquetis. s'enclenche imperceptiblement et vraiment on est entraîné par, par ce scénario toujours, toujours un peu plus profond dans cette espèce d'angoisse. Hein. On se demande vraiment ce qui va se passer et on a des mauvais pressentiments qui viennent les uns après les autres et puis qui finissent par être corroborés aussi petit à petit. Hein. Et l'inquiétude est toujours là. C'est vraiment, et au fur et à mesure que le film avance, en fait, il y a vraiment, enfin, il n'y a rien de neuf, il n'y a rien de nouveau qui est apporté. La situation est toujours plus ou moins la même. Mais par tout un tas de petits procédés, Clouseau arrive à maintenir une tension qui ne saute pas qu'à la fin du film.
Sur saute à chaque petit caillou quand on se presque, on voit cet homme plus âgé qui pleure, qui a vraiment peur, et il a peur avec lui, et on rigole aussi un peu quand même, un petit peu vache parfois, avec cet aîné, tout ça.
Oui, voilà, c'est, oui, c'est peut-être les quelques instants où la conscience se libère un petit peu, c'est vrai qu'on s'amuse quand même dans ce film, avec des dialogues souvent assez savoureux, mais en tout cas, c'est un film réputé marquant dans la filmographie de Clouseau. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est effectivement le cas. C'est vraiment donc, un film à voir. Je pense que...
Sur le banc des accusés, c'est Dominique, dite prostituée, qui est jouée par Brigitte Bardot, comme tu l'as dit. Il s'ensuit le récit enchâssé de leur romance, entrecoupé de sentences formulées au procès. Et c'est intéressant parce que les scènes du procès elles trahissent vraiment en fait, les préoccupations de Clouseau. C'est les bons bourgeois assis sur leurs valeurs, qui sont un peu comme des figures de cire, comme ça, hop, d'un autre âge, qui ressurgissent dans le récit pour trancher sur la moralité de Dominique. Donc il y a un arrière-fond très portrait obituel de la bourgeoisie quoi. Et un côté manichéen en fait qui est tout à fait assumé. Et donc entre ces scènes, le film déplie un peu ce qui est le creux du procès, la romance de Gilbert et Dominique. Et là on a vraiment un tout autre cinéma. On retrouve les années 60, la nouvelle vague et c'est super beau. Quoi. Bardot elle crève l'écran. Un peu lascive, qui a envie de profiter de ses beaux jours, enfin voilà. Et puis à la fin, c'est une femme détruite, complètement rongée. Et entre les deux, elle passe par tous les deux. Quoi. Et on est immédiatement dans une position de très profonde empathie, je trouve, avec elle, car personne, en fait, comprend cette femme, ni l'avocat qui l'accuse, ni l'avocat qui la défend, pas non plus Gilbert d'ailleurs, parce qu'en fait, il en reste un peu à la Dominique. Il n'a aucune conscience de son évolution. Donc voilà, c'est un très beau portrait psychologique, très bien réalisé, et un film que je conseille absolument.
Alors oui, bah, on a l'air de reconnaître du vrai bon Clouseau comme on l'aime, ce que tu dis, les petits travers de la bourgeoisie, les portraits psychologiques, les personnages qui détruisent petit à petit le long du film. Et puis bon, pour avoir entre dans ma chambre l'affiche du film avec les noirs et blancs splendides qui doivent mettre en valeur le visage de Brigitte Bardot d'une façon assez inhabituelle, puisqu'on a plus l'habitude de la voir en couleur, mais les noirs et blancs Clouseau sont quand même très, très connus, et j'imagine que l'image doit être assez splendide aussi.
Il y a vraiment, comme je disais, deux côtés dans le film. Un côté qui me fait presque penser au cinéma américain, très expressionniste. Donc ça, c'est plutôt les scènes au procès, avec des plans sur des visages graves, des visages sinistres. Et puis, il y a cet autre côté, beaucoup plus rythmé, beaucoup plus doux, où on a la romance des deux. Et oui, c'est vrai, il y a un côté portrait contrasté, où le visage se retourne et qu'on voit progressivement apparaître comme ça le profil qui se découpe, et puis à chaque fois c'est un nouveau visage quand deux personnages se retournent, parce que leur romance, les deux évoluent à sens inverse, quoi. Il y en a un qui se désintéresse, l'autre qui se passionne, et c'est super.
Et bien voilà, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour aller le voir, chers auditeurs? C'est donc La vérité de Clouseau. Et avant de te laisser, Léa, on a parlé hier d'Une femme et d'une femme de Jean-Luc Godard. Tu l'as vu aussi. Est-ce que tu as quelques impressions à rajouter sur celle particulièrement contrastée qu'on avait donnée avec Sarah hier?
Ah, une impression contrastée. Moi, je suis plutôt entièrement satisfaite par. J'adore ce film. Donc j'imagine qu'elle a dû vous raconter l'histoire. Je ne vais pas revenir dessus. Moi, qu'est-ce qui m'a plu? C'est le côté écho. Comment dire? D'abord, donc, c'est cette histoire de deux personnes, mais le film se tisse complètement sur des échos à l'extérieur. Il n'en reste pas à leur appartement. Et ce côté écho, il se retrouve dans chaque partie du film. Je vais essayer d'expliquer ça. Je pense par exemple aux publicités lumineuses qui sous-titrent comme ça avec beaucoup d'ironie les propos des personnages. Et cette manière de construire un film, voilà, on l'a déjà là chez Godard, en faisant un lieu très très polyphonique, où il y a plein d'éléments comme ça qui viennent entrer en tension, parfois pour s'associer, parfois pour se contredire, et donc cette polyphonie elle est présente dans les dialogues, dans l'image, et on en trouve encore une nouvelle strate grâce à la musique en fait.
La fameuse musique.
La musique, mais c'est génial quoi. Elle est tissée sur le film comme ça, et ça fait une sorte de seconde voix qui aurait un peu plus de hauteur de vue que les personnages. Alors des fois elle vient les galvaniser, des fois elle masque complètement leurs propos pour les tourner en dérision, d'autres fois elle se présente comme un insert comme ça qui vient rappeler aux spectateurs la tension en fait entre le temps de la fable, le temps du film et le temps plus politique de l'ici et du maintenant, d'un docu de l'extérieur. Enfin voilà, c'est un film avec des acteurs formidables, mais qui n'est pas là pour les glorifier, pour les mettre sur un piédestal. Il est plutôt là pour comment dire, solliciter le spectateur, l'obliger à entrer dans une lecture vive. Donc voilà, s'il passe encore, à voir absolument. Et puis en plus, en fin de festival, je pense que c'est un film. Oui, c'est plutôt ce que je verrais après une grosse journée cinéma. Un film aussi rafraîchissant, même si c'est le même pas. C'est très sympa de dire c'est un film qui est rafraîchissant. Mais...
Ouais. D'accord, bon, alors je crois que je suis obligé de m'incliner face à Sarah et toi. Allez donc le voir, chers auditeurs, hein, comme je le disais hier, ne serait-ce que pour voir ce que c'est. Et puis pour ceux d'entre nous pour qui ça serait une première rencontre avec Godard, c'est quand même une bonne façon d'entrer dans son cinéma, parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on sait y trouver qui est un peu concentré dans son film.
Voilà, c'était Les Lumières du Festival, notre chronique quotidienne du Festival Lumière, avant-dernière édition, avec aujourd'hui Marie, Sarah, Marie, Maë, Léa et Rémi.